Salut à toutes et à tous. Au sommaire de ce 8e épisode, nous aurons entre autres International Karaté Plus, Marvel Land, Three Wonders, Battle Zone, Vroom, Dai Makaimura et la démo Vision du groupe Oxygène. Bienvenue sur Rétrovision. Comme il est bon de se retrouver sur Rétrovision, l'émission 100% rétro gaming avec le dernier épisode de la 4e saison qui, comme le veut la tradition, vous propose le meilleur de la saison précédente ainsi que des tests totalement inédits. On commence justement avec une vidéo qui n'a jamais été diffusée, International Karaté Plus sur Atari ST. 2 ans après l'apparition d'International Karaté, IKA Plus sort en 1988. Les grandes différences avec son aîné résident principalement dans l'apparition du mode 3 joueurs simultané à l'écran. Le but du jeu est simple, combattre les deux adversaires en leur infligeant des coups plus ou moins forts pour être le premier à obtenir les 5 points de la victoire. Ces points sont alors distribués à chaque fois qu'un adversaire est touché ou mis KO. Et le but est d'atteindre ce score avant les autres et avant que les 30 secondes allouées au match se soient écoulées. Des ceintures sont données à chaque fois que le joueur progresse. Ainsi, le karatéka, qui commence au début par une ceinture blanche, se verra attribuer au fil des combats des ceintures jaunes, vertes, pourpres et noires. Pour évoluer dans le jeu, les personnages ont une palette de 14 coups différents selon l'orientation de la manette et la pression sur le bouton tir. Lorsque le joueur remporte un match au bout de 2 rounds gagnants, un stage bonus se déclenche. Il y en a 2 différents, les balles rebondissantes et les bombes à retardement. IKA Plus est considéré depuis longtemps comme le jeu de karaté de tous les temps. En effet, même si au niveau de l'emballage graphique et sonore, le jeu reste simple, ses points forts restent indéniablement sa maniabilité, son gameplay et le fun qu'il dégage. Voici l'adaptation Nippon de Marvel Land sur Mega Drive, rebaptisée Talmitz Adventure en Europe. Une petite scène d'introduction y a été ajoutée, nous permettant de comprendre un peu plus le scénario. Voici la partie de Shifumi dont je vous parlais tout à l'heure. On retrouve le même principe dans le jeu Alex Kidd. Avec des graphismes moyens et une animation plutôt molle, cette conversion sur console est décevante et loin d'être à la hauteur de ce que peut faire la Mega Drive. Lock and Chase sur Intellivision est le premier d'une série de conversions basées sur les jeux d'arcade de Data East. Vous dirigez un voleur à travers un labyrinthe et le but est de récupérer les différents objets qui apparaissent de temps à autre à un endroit bien précis tout en évitant les policiers. Il faudra aussi ramasser toutes les pièces symbolisées par des carrés jaunes pour passer au niveau suivant. Évidemment, plus vous montez dans les niveaux, plus les trésors sont de grande valeur. Comme son nom l'indique, Lock and Chase vous permet de bloquer temporairement des portes derrière vous pour échapper à vos poursuivants. Attention tout de même à ne pas tomber dans son propre piège en se laissant enfermer avec un policier. Sorti en 1991 par le légendaire éditeur Capcom, Three Wonders est une borne qui regroupe trois jeux dans un style différent. Commençons une petite partie avec Midnight Wanderers, qui est un magnifique run and gun où vous incarnez deux lutins à la recherche du chariot enfermé dans le palais des ténèbres. Pour cela, il faudra traverser 5 niveaux, ponctués chacun par un boss ainsi qu'un demi-boss en milieu de parcours. Les graphismes détaillés aux couleurs chaleureuses sont sans doute inspirés de la littérature fantastique du 19e siècle. On reviendra là-dessus dans le jeu suivant. La jouabilité et les animations sont excellentes, pas de surprise, on est sur du CPS 1. Et pour une fois, la progression se fait sans trop de problèmes. Avec un peu de pratique, on arrive facilement au niveau 3. Midnight Wanderers est un agréable run and gun qui a marqué un certain nombre d'amateurs de jeux d'arcade. Il a d'ailleurs influencé Nightmare Buster, une cartouche prévue sur Super Nintendo, mais qui n'a malheureusement jamais été officiellement commercialisée. Chariot est la suite directe de Midnight Wanderers avec un changement radical de style puisque c'est un shoot 'em up à scrolling horizontal sur 6 niveaux, chacun divisé en deux moitiés avec son lot de boss et de demi-boss. Le but de cette nouvelle mission est de délivrer une princesse qui s'est fait capturer. L'auto lutin dirige maintenant le fameux chariot volant qui, malgré son apparence, dispose d'une très bonne puissance de feu. Celui-ci est muni d'une espèce de queue mécanique qui emmagasine des charges d'énergie permettant de tirer des bombes. A noter qu'il est possible de s'en servir aussi comme bouclier. Durant notre voyage aérien, vous attraperez divers power-ups et des options souvent très pratiques afin d'améliorer votre arsenal de tir. La maniabilité est vraiment bonne, les sprites sont fins et détaillés, mais surtout les graphismes magnifiquement inspirés du monde imaginaire des œuvres de Jules Verne ou de Lewis Carroll sont formidablement retranscrits en pixels. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce ne sont pas ces grands écrivains qui se sont inspirés de Capcom. Admirez ces boss de fin de niveau qui nous font penser aux fabuleuses aventures du baron de Munchausen ou bien aux secrets des Sélénites, célèbre film d'animation de Jean Image. Ajoutez à cela une difficulté bien dosée et vous obtenez un shooter de toute beauté et agréable à jouer où l'on ne s'ennuie jamais. Le troisième titre a pour nom Don't Pull. Et comme vous pouvez le constater, on a du mal à comprendre l'intérêt de ce jeu par rapport aux deux autres. Sans doute que Capcom a voulu combler pour avoir trois jeux et ainsi obtenir une sorte de compilation plus complète. Vous dirigez un petit lapinou enfermé dans un labyrinthe dont les murs sont des blocs amovibles qu'il faudra pousser sur les ennemis ou contre les parois afin de les détruire. Un deuxième lapin peut se joindre à la partie et venir s'amuser à balancer des carrés pour écraser les adversaires qui ont l'air aussi perdus que vous. Ce mode de joueur n'augmente pas vraiment l'intérêt, mais si vous aimez ce style de jeu, allez voir plutôt du côté de chez Hudson Soft et demandez un certain Bomberman de la part de Retrovision. C'était en 1983, Atari eut la bonne idée d'adapter Battlezone, une simulation de chars d'assaut sortie en arcade 3 ans plus tôt. Cette dernière avait des graphismes vectoriels, alors que celle sur console affichait des couleurs aux teintes bien militaires. Le gameplay étant répétitif, l'objectif sera alors de marquer le plus de points possible. Pour cela, il faudra abattre un grand nombre de cibles comme des fighters, tanks, super tanks et même des espèces de soucoupes volantes. Battlezone était un indispensable pour tous les possesseurs de la console d'Atari. Cette cartouche laissa de bons souvenirs à toutes celles et ceux qui l'ont essayé. Voici la disquette dont pratiquement tous les possesseurs de micro-ordinateurs se souviennent sûrement. Vroom, simulation de Formule 1 par excellence, édité par Landcore en 1991. Avant de commencer, plusieurs modes de jeu sont proposés. Le premier, appelé Arcade, propose une conduite décontractée où l'objectif est de doubler les autres pilotes pour accéder au prochain Grand Prix tout en essayant d'avoir le meilleur score. Le second mode est plus axé sur la compétition, à la difficulté plus élevée où l'objectif est d'être le plus haut classé au championnat du monde. Chaque Grand Prix est précédé d'un tour de qualification qui détermine la position sur la grille de départ. Comme dans toute bonne simulation de Formule 1, il faudra gérer plusieurs paramètres comme l'usure des pneus, du moteur, la consommation de carburant qui peuvent nécessiter des arrêts au stand. Le point fort de Vroom, c'est indéniablement au niveau du gameplay, qui, à l'époque bien sûr, offrait une grande précision dans la conduite, ainsi qu'une sensation de vitesse rarement égalée sur micro-ordinateur. A noter aussi qu'il est possible de jouer à la souris et qu'un data disc est sorti peu de temps après afin d'enrichir les 6 circuits de la version originale. Vous l'aurez compris, Vroom est un classique qui a reçu moult récompenses dans sa catégorie, comme le Tilt d'Or Canal+, 1991 de la meilleure simulation sportive, et le 4 d'Or Fnac Génération 4 du meilleur jeu de course, rien que ça. Ils ne sont pas nombreux les jeux vidéo basés sur le shonen manga du collège Foufoufou, alors quand il y en a un qui sort, on se sent obligé de l'essayer, surtout si l'on est un fan de la série animée. On ne sait pas grand chose de ce Simple Characters 2000 série volume 5 High School Kimengumi The Table Hockey, ça c'est le nom simplifié, édité par Bandai en 2001 sur PlayStation, si ce n'est qu'il met en scène les personnages les plus emblématiques de la série dans des matchs délirants de hockey sur table. Tout le monde connaît le principe de ce jeu aussi connu sous le nom de Ice Air Hockey. Si vous fréquentiez les salles d'arcade dans les années 80-90, vous avez dû obligatoirement en voir quelques-unes. Ce sont des tables munies de minuscules petits trous où de l'air s'échappe, faisant ainsi glisser le palais en plastique. Le but est d'envoyer le palais dans la fente opposée pour marquer le plus de points possible. Sauf que là, vous incarnez un des membres de la bande des Joyeux Loufoques. Et il y a aussi pas mal de personnages débloquables, dont Lassie, le chien de Rei Ishido.
Daima Jinwa. 今日もお腹を減らしていた。弁当は二次元目には影も形もなくなっていた。
Après avoir choisi votre personnage, vous avez le droit à une petite conversation avec votre futur adversaire, histoire de planter le décor. L'aire de jeu est joliment décorée suivant les goûts et les affinités du concurrent en face de vous. Par exemple, pour Dan, qui aime la sensualité, verra sa table entourée de fleurs. Des bonus en forme de lettres colorées traversent l'aire du jeu. Pour les récupérer, il suffit de les toucher par l'intermédiaire du palais. Ajoutez à cela les attaques spéciales propres à chaque collégien. Pour encore plus de fun, vous pouvez faire des parties en double, un peu comme du tennis, contre la console ou avec des amis. Ce High School Kimengumi n'est pas aussi représentatif de l'anime que son homologue sorti sur Sega Mark III en 1986, dont vous pouvez d'ailleurs retrouver le test sur le hors-série 3 de Retrovision. Ici, on enchaîne plutôt les parties de Ice Hockey sans trop de fantaisie. À réserver aux grands amateurs du collège Foufoufou ou collectionneurs de jeux PlayStation. Zexon de Sega, sorti en 1982 sur ColecoVision, est un shoot'em up qui bouleversa ce genre par sa réalisation technique lui permettant de se différencier des grands hits de l'époque. Alors que tous les autres shooters étaient en deux dimensions, Zexon se paye le luxe d'avoir une vue en 3D isométrique dotée d'un scrolling des plus fluides. À l'écran s'affiche deux indicateurs qu'il sera important de surveiller. Une jauge de carburant en bas à droite qui descendra de plus en plus vite en fonction de la difficulté des niveaux et un altimètre bien pratique pour ajuster la position du vaisseau face aux tirs ennemis et aux obstacles. Comme dans toutes les cartouches ColecoVision, vous pouvez choisir le niveau de difficulté avant de commencer une partie, où de nombreux paramètres seront reconsidérés comme par exemple la vitesse, le niveau d'essence, de nouveaux ennemis ou encore des obstacles ajoutés, de quoi augmenter le plaisir pour cette conversion console brillamment réussie. Attention, chef-d'œuvre. Si je vous dis Delphine Cinematic Software, début des années 90, j'en vois déjà qui verse une petite larme. Flashback fait partie de la famille des jeux sur micro-ordinateur, tellement bon qu'il fut adapté par la suite sur les consoles de salon de l'époque. En voici la preuve avec la version Sega CD, sortie en 1994, la première apparition étant sur Amiga en 1992. Flashback était un jeu rudement bien travaillé et qui avait presque tout pour plaire. Un scénario en béton, de bonnes scènes cinématiques, un gameplay accrocheur, mais surtout des graphismes magnifiques avec un level design où chaque tableau dispose d'une personnalité qui lui est propre.
Here's a map of the city which you may find useful.
Thank you.
Vous incarnez Conrad, un personnage devenu amnésique à la recherche de son identité. Pour arriver à retrouver la mémoire, il faudra traverser 4 niveaux parsemés de pièges et d'embûches avec leur lot de surprises et de rebondissements.
Africa.
Ce jeu d'action-aventure est plutôt axé sur la plateforme. On dirait un croisement entre Another World et Prince of Persia. Conrad dispose d'une palette de mouvements plus qu'honorable. Il est capable de courir, faire des roulades, sauter avec ou sans élan, et même exécuter des sauts verticaux permettant d'atteindre les plateformes supérieures. Les attaques se font par le biais d'un pistolet laser TX-4000 qu'il faudra bien maîtriser pour abattre les ennemis qui ont tous un schéma comportemental récurrent. La version Mega CD apporte quelques améliorations ou modifications pour certains. Support CD oblige, vous aurez le droit à des voix digitalisées, des scènes cinématiques en images de synthèse et une bande son orchestrée qui colle parfaitement à l'action.
My dear Conrad, Titan Travel is happy to award you this superb journey to Earth.
Alors, entre le support CD et les disquettes, notre cœur balance. Mais pour les nostalgiques purs et durs, ce sera définitivement la sortie originale sur micro-ordinateur qui aura toujours le dessus. Après s'être fait botter le popotin dans Ghost and Goblins par le roi Arthur, le maître des enfers, après une tentative ratée de kidnapping envers la princesse, décide, dans Ghouls and Ghosts, de l'assassiner en se disant que cette fois-ci, Arthur ne pourra pas aller la libérer. Mais pour notre valeureux roi, même dans la mort, il y a de l'espoir, et c'est ainsi qu'il décide de repartir à l'aventure afin de récupérer l'âme de sa belle, revêtue de son armure et de son légendaire caleçon blanc à pois rouge. Créé par Capcom en 1988, Ghost and Goblins est un jeu de plateforme action d'une difficulté, disons, assez relevée. Dans ce deuxième volet, on peut enfin tirer vers le haut, ce qui n'était pas le cas dans le premier. Il est aussi possible de lancer des sorts lorsque notre héros porte l'armure dorée. L'adaptation sur Super Graphics est plus qu'honorable, s'approchant fidèlement de la version arcade, toujours avec une difficulté démoniaque, d'où son nom original, Dai Makaimura, le grand village des démons. Au même titre que son illustre prédécesseur, Ghouls and Ghosts est devenu un classique de la plateforme 2D. Et c'est un vrai challenge pour le finir deux fois de suite pour accéder à la vraie fin. Thank you. On arrive tranquillement vers la fin de ce dernier épisode. On se retrouve à la rentrée des classes pour une nouvelle saison. Et oui, c'est officiel. Mais avant de se quitter, place à une démo Amiga, toujours exclusive. Vision du groupe Oxygène. À bientôt et bonnes vacances avec Rétrovision.